des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vas-y.
On est tous un peu indignés et surpris.
Carte blanche.
C'est pas surprenant qu'ils se réveillent avec de mauvaises surprises. Et qui n'ont juste pas trouvé le courage de dire non.
La carte blanche de Stéphane Bureau.
Stéphane, bonjour.
Salut, Philippe Vincent.
Bon, Trump est toujours libre.
Toujours libre, il le sera encore certainement pour les prochaines semaines, les prochains mois. Je te propose ce matin, Monsieur Trump s'en va en cours pour les nuls, peut-être, parce que c'est ce qui pourrait arriver au cours des prochaines journées, certainement pas au cours des prochaines heures. On pensait peut-être à une époque que la saga Trump dans nos vies à la une des journaux était terminée. La réponse courte, mais loin s'en faut. Je pense qu'on va beaucoup entendre parler du président ou de l'ex-président et du candidat pour les élections de 2024. Même si sa candidature devait battre de l'aile, je pense que l'actualité judiciaire va faire en sorte de lui donner du tonus. Les accusations ou des accusations, parce qu'on verra qu'il pourrait être inquiété sur plus d'un front, des accusations pourraient être portées aujourd'hui. Le grand jury qui doit ou devra voter sur ces accusations se réunit depuis un certain temps déjà, les lundis, mercredi et vendredi après-midi. Or, nous sommes mercredi. Plusieurs témoins ont été convoqués lors des dernières réunions. Il y a même M. Trump, l'ancien président, qui a été invité à venir témoigner, ce qu'il a décliné de faire. Es-tu surpris? et on pense que les derniers témoins pourraient ou seront entendus aujourd'hui. Le vote sur les accusations, donc, ça pourrait avoir lieu cet après-midi, fin d'après-midi, dès que le bureau du procureur de New York qui instruirait l'affaire, Alvin Bragg, va être saisi des accusations, c'est livré sous scellé. Les avocats de l'ancien président vont être alors informés et donc libres de dire publiquement les accusations vont être portées. De toute manière, quoi qu'en pense ou quoi qu'en fasse les avocats de M. Trump, c'est lui qui va avoir le dernier mot. Et déjà samedi, avant qu'elles soient portées, ces accusations, il était très publiquement sorti pour dire que ça allait arriver. Donc, je pense que le délai sera pas long avant que la fumée blanche sorte. Quoique dans ce cas-ci, on va pas élire un pape. On va savoir si celui qui veut être pape à nouveau risque de se retrouver en cour et probablement pour dire qu'il plaide non coupable. À cette étape, je dirais qu'il serait assez surprenant que le procureur de New York poursuive le travail du grand jury s'il n'était pas assez convaincu qu'une majorité de ses jurés n'était pas favorable à porter des accusations. Parce que tu maintiens pas l'affaire si tu penses pas que tu vas l'emporter. Et quand tu convoques un grand jury comme ils l'ont fait, c'est pas dans l'espoir que les accusations soient pas portées. Et c'est assez simple. Ça prend une majorité simple, contrairement à un jury en cours qui doit généralement, à l'unanimité, arriver à une décision. Dans ce cas-ci, ils sont 23, ces jurés, et ça prend une simple majorité, donc 12 favorables aux accusations pour qu'elles soient portées. Ça, je ne sais pas si toi, tu es familier que le fonctionnement du grand jury.
Pas vraiment, non. C'est tout le temps mêlé.
C'est mêlant. Il n'y a pas d'équivalent ailleurs, franchement, dans le monde. J'ai fait une recherche rapide tout à l'heure. Il y a peut-être au Libéria en Afrique. Alors, pour te dire, c'est pas un critère. Il y a juste les États-Unis qui ont ça. C'est comme une étape qui permet aux procureurs aux États-Unis de se donner un outil, un levier pour aller plus loin dans son enquête avant procès. Et donc, ce sont des citoyens, des jurés, comme dans un procès, qui sont appelés à étudier des preuves qui justifieraient des accusations. Contrairement à des jurés à un procès, ces personnes-là, ces citoyens-là, peuvent poser des questions aux témoins qui sont cités à comparaître. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat de la défense, grosse nuance donc, et il y a même des preuves qui seraient inadmissibles en cours au tribunal, qui peuvent être présentées, sachant qu'à cette étape-là, évidemment, les jurés ne se prononcent pas sur un verdict de culpabilité, mais seulement sur la recevabilité des accusations. C'est très important et très différent comme nuance. Donc, c'est là que ça s'est passé depuis un certain temps. C'est là que ces hommes et ces femmes, citoyens, ont à arbitrer si le procureur de New York a suffisamment d'éléments pour justifier un procès. Alors, les accusations contre le président Trump, dans ce qui nous intéresse, parce que tout à l'heure, je te disais qu'il peut être inquiété sur plus d'un front, parce qu'il y a un procureur spécial qui, à Washington, est en train d'étudier la responsabilité ou non du président Trump dans les événements du 6 janvier, et aussi étudie si, oui ou non, il est criminellement responsable d'avoir emporté avec lui à Mar-a-Lago des documents secrets, top secrets ou confidentiels. Donc, c'est une toute autre affaire. On est sur un autre front. Les accusations dans ce cas-ci pour M. Trump, auxquelles il fait face, c'est de falsification de documents en 2016, alors que son organisation aurait remboursé l'avocat de M. Trump, Michael Cohen, qui, lui, avec de l'argent qu'il avait pris dans sa poche, avait payé une personne qui magasinait sur le marché, la possibilité de vendre son histoire d'une relation avec le président Trump. Stormy Daniels est le nom de la personne, c'est pas son vrai nom, elle vient de la Louisiane et elle prétendait avoir eu une relation avec le président, relation sexuelle. Enfin, à l'époque, il n'était pas président. Elle magasinait son histoire dans des journaux à potins. Et le candidat Trump, en 2016, aurait donc choisi de couper court à la rumeur en achetant son silence. Ce qu'il est accusé d'avoir fait, c'est d'avoir falsifié des documents, c'est-à-dire d'avoir remboursé son avocat en laissant entendre qu'il avait payé des services légaux et non pas que cet argent avait servi à acheter le silence et donc déduit ses dépenses. Dans ce cas-ci, c'est un simple délit. S'il avait falsifié les documents, ça peut devenir un crime si la démonstration est faite que le candidat Trump, à ce moment-là, avait l'intention de violer la loi électorale, parce que le 130 000 $ qu'il aurait remboursé à son avocat pourrait être considéré comme une contribution électorale qu'il a faite à sa propre campagne. C'est pas simple. Tout ça pour dire que c'est pas non plus gagné en cours. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le procureur de New York va instruire l'affaire, il peut instruire l'affaire s'il décide qu'il y a une violation de la loi électorale fédérale dans une cour d'État. Alors ça, c'est l'aspect technique. Les étapes, s'il devait être accusé, M. Trump, si ce soir on l'apprenait, il va être invité à venir à New York, parce qu'il habite maintenant en Floride, venir à New York pour recevoir ou pour qu'on lui présente ses accusations au bureau du procureur. Ce matin ou hier, je pense que le Guardian de Londres disait qu'il espère, et que plusieurs sources confirment au journal, qu'il espère être menotté au moment où il se présentera, peut-être pour ajouter au drame de la scène. Je ne sais pas si c'est vraiment son souhait. Ce qu'on sait, c'est qu'il sera bertillonné, c'est-à-dire qu'on va prendre ses empreintes digitales, photographies, le mugshot traditionnel. Une fois que les accusations vont lui être présentées, il va se présenter immédiatement devant un juge pour présenter, lui, son plaidoyer, coupable ou non, et il va reprendre ses activités immédiatement parce qu'il ne sera évidemment pas emprisonné. Une affaire importante à retenir, c'est que la prochaine bataille va se livrer contre Alvin Bragg, qui est le procureur à New York, qui s'est déjà commencé, parce que c'est un démocrate. Les procureurs...
Parce que c'est ça aussi, là, il y a des élections pour ces postes-là où sont nommés par...
Exact. Ça fait 15 mois que lui est en poste. Il a été élu démocrate. Les républicains vont dire qu'il est appuyé par le milliardaire philanthrope George Soros, qui, on le sait, ça s'est avéré, a financé plusieurs élections de procureurs progressistes depuis quelques années. S'il y avait un symbole de ça, c'est à San Francisco, Chesa Boudin, qui a été élu en 2019 et qui représentait pour les républicains tout ce qui est foqué dans le monde de la justice progressiste. Il est arrivé en place, a mis à la porte des procureurs qui étaient récalcitrants à son bureau pour récalcitrants à ses idées novatrices, réduit les peines pour plusieurs crimes, éliminer le besoin de payer des cautions pour certains criminels qui étaient inculpés. Donc, un changement de méthode complet, avec aussi l'activité des policiers scrutée à la loupe davantage que ce à quoi on avait été habitué dans le passé. En pleine COVID, à ce moment-là, 2020, dans une ville, San Francisco, qui avait fait le choix de fermer pendant de longs mois, c'est un cocktail qui n'a pas été très heureux. La criminalité a effectivement augmenté de façon assez importante. Et l'automne dernier, M. Boudin, a été rappelé. C'est-à-dire qu'il y a eu un vote qui a été organisé. Les citoyens ont demandé à le congédier, ce qu'on appelle un recall aux États-Unis. C'est très rare, c'est très difficile. Et c'est arrivé. On s'est débarrassé de celui qui avait été élu en 2019. Alors, Alvin Bragg n'est pas exactement de la même mot, répond pas à la même description que Boudin, mais il est facile de faire de l'amalgame puis dire, comme Boudin, c'est un homme de Soros, du philanthrope dont je te parlais tout à l'heure, il y a un agenda politique. Et dans cet agenda politique, s'attaquer au personnel républicain, et dans ce cas-ci, tu n'as pas de symbole plus flamboyant que l'ancien président Trump. Et ce qui est amusant, sinon, je dirais, déconcertant, c'est que non seulement ça va se faire sur la place publique dans certains médias, ce procès d'intention, mais les républicains qui contrôlent à la Chambre des représentants le comité des affaires judiciaires ont donné jusqu'à demain matin 10h, jeudi 10h, au procureur Bragg pour qu'il choisisse de renoncer à porter des accusations. Sinon, eux vont faire au comité enquête sur Bragg parce qu'ils ont l'intuition forte qu'il est motivé par des intérêts politiques. Que donc la justice qui devrait animer, évidemment, le procureur, le représentant des citoyens. La justice n'est pas au cœur de sa démarche, mais que c'est essentiellement motivé.
Donc, on va politiser la justice parce que la justice est déjà politisée aux États-Unis. C'est une belle
troisième
situation.
Degré de troisième étage de l'affaire. Résultat net des courses, on va entendre parler de ça. Il y a de bonnes chances effectivement qu'on voit M. Trump à New York bientôt. On a vu autour du palais de justice, sinon du bureau du procureur, les mesures de sécurité être renforcées. C'est certainement pas un hasard. Et comme je te le disais, je pense lundi, moi, c'est de voir le tango, le ballet entre les agents fédéraux des services secrets qui travaillent très intimement avec le gars qui protège et dont la mission dans la vie et de s'interposer entre l'ancien président et quiconque lui voudrait du mal. Donc, ces gens-là, interagir avec les policiers de la ville de New York.
En même temps, ils lui veulent pas du mal. Ils vont juste le guider gentiment, oui, poliment, prudemment.
À l'ancien président, évidemment. Mais juste ça, juste cette espèce de ballet. Évidemment, c'est sans précédent. L'expression est souvent galvaudée. On dit sans précédent. Or, à beaucoup de choses, il y a des précédents, mais un ancien président qui est traduit, pas traduit dans les tribunaux parce que c'est pas commencé, mais qui sera inculpé, c'est du nouveau. C'est territoire inconnu. Donc, on va assister à un nouveau chapitre de
cette télé-réalité. Mais t'attends-tu, toi, un genre de spectacle trumpiste qui lui souhaite cette arrestation, qui va en faire tout un spectacle où il va se pointer avec les services secrets au palais de justice, puis il va rentrer, puis il va ressortir? Ou... Tu sais, il peut pas, il va pas. Comment on disait, là, ne perdons pas une bonne crise. Là. C'est ce qu'il va vouloir faire.
De toute façon, c'est pas lui qui va contrôler la mise en scène. C'est les autorités qu'il convoque qui vont faire ça. Et je pense que c'est nous, collectivement, dans les médias, qui vont transformer ça en cirque, parce qu'il y a peu de chances qu'il manque de caméras et de photographes quand il va se présenter. Ajoute à ça probablement des partisans de M. Trump qui vont être bruyamment dans la rue pour dénoncer la manœuvre. Donc, quoi qu'il arrive, je ne crois pas qu'à cette étape-ci, il ait beaucoup à ajouter pour que ça soit un peu gung-ho. Ça va être un gros cirque. Pour toutes les raisons que je t'ai dites tout à l'heure. Il n'y a pas de précédent. On est en campagne déjà, campagne présidentielle. Or, il n'est pas qu'un ancien président des États-Unis, c'est aussi le premier des républicains à avoir annoncé son intention de briguer la présidence en 2024. Et ça met d'ailleurs tous ses adversaires un peu dans les cordes parce qu'il les a forcés à prendre position. On attendait de voir ce que dirait son principal adversaire, le gouverneur de la Floride, M. DeSantis, de Sanctimonious, comme dit M. Trump. Il y a toujours de bons surnoms pour ses adversaires. Alors lundi, il a assez habilement, M. DeSantis, dit « Je reconnais que le procureur de New York brague et est probablement motivé par des intérêts politiques, mais que sais-je, moi, de ce que c'est d'être accusé d'avoir acheté le silence d'une ancienne star de la porn? » Donc, très clairement, il questionne la moralité de l'ancien président, ne se gêne pas. Je crois qu'il a donné une entrevue à Piers Morgan de la Fox qui devrait être diffusée bientôt. Il y avait un compte-rendu dans le Post de ce matin, je pense, le New York Post. Et apparemment, il dit « stay tuned » quant à ses intentions de se présenter officiellement, lui, dans la course. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de suspense. En mai, en juin ou plus tard, il devrait avoir choisi d'être sur le sentier de la guerre électorale. Il n'y a aucun intérêt à brusquer ou accélérer les choses, parce qu'à partir du moment où c'est officiel, tu commences à recevoir davantage de coups de tous tes adversaires. Et pour l'instant, il est très visible. Il est dans le pire des cas deuxième en termes d'intention de vote, puis peut-être légèrement en avance de M. Trump, sans avoir payé le prix d'être dans l'arène officiellement. Donc, pour l'instant, il récolte les dividendes sans trop avoir à investir, mais il pourra pas tarder. Et chose certaine, il s'est pas gêné, lui, lundi, pour questionner l'autorité morale de son éventuel adversaire, tout en faisant ce qui est attendu de lui, c'est-à-dire s'en prendre au motif du procureur démocrate qui instruit l'affaire. Dans la justice chez nous, n'est pas fair.
D'une pierre deux coups, c'est toujours bien. En politique, c'est plus payant. Stéphane, on va sûrement en reparler demain. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. Le spectacle en direct sur toutes les chaînes américaines toute la journée.
Ce soir, pas gagné. Entendons-nous bien, là, c'est pas assuré que ça va se passer ce soir. L'annonce des accusations, parce que Trump va pas se présenter immédiatement, ça va se négocier, hein, ça, entre les avocats et le bureau du procureur. Donc, M. Trump pourrait être là demain, s'il le voulait, mais ça pourrait être la semaine prochaine aussi. Bon. On va pas lui dire t'as 24 heures pour arriver.
On va lui donner le temps. Stéphane, à demain.
Salut.